Le thème de la prédication ce matin, le thème c'est l'Église. Et le titre du message c'est « Jésus nous aime ». Donc nous allons tourner dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16. Et les versets 13 à 18 que nous allons lire, ça va être notre... passage de départ. Matthieu 16, les versets 13 à 18. Donc, c'est la déclaration de Pierre. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu souverain, alors que nous sommes devant toi ce matin, Seigneur, et ta parole nous dit que nous sommes devant tous les anges aussi. Dans l'Épître aux Hébreux, dans l'Épître de Pierre, il nous est dit que les anges portent leur regard dans l'œuvre que tu accomplis dans l'Église, parce que les anges n'ont pas reçu ce salut comme nous. Alors ils sont émerveillés de voir l'œuvre que tu fais dans l'Église, le salut que tu accordes aux croyants, Seigneur, de la manière que tu fonctionnes pour amener les croyants dans ton Église. Alors, Seigneur, on te prie de nous bénir ici ce matin, Seigneur, rassemblés autour de toi, et de bénir ta parole, Seigneur. Accorde-moi, Dieu Tout-Puissant, de dire toute ta vérité, Seigneur, de m'effacer et que ce soit toi qui parles, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
L'utilisation de notre confession de foi nous rappelle que nous ne sommes pas dans des eaux troubles. Nous prenons notre confession de foi comme un compas ou une carte. Quelqu'un pourrait se questionner, pouvez-vous réellement faire confiance à une confession de foi, spécialement celle-ci, qui est si vieille, elle a quelque 300 ans, et plus, pour être exact, 326 ans d'âge. C'est la confession de foi qu'on appelle la 1689, ou quelquefois les gens l'appellent la confession de foi de Londres. Comment quelque chose de si vieux peut être d'actualité en 2015? On est tellement rendu évolué, on est à l'heure de l'instantané, de l'informatique, des iPhones, des iPads, de toutes les i qu'on peut trouver. Au siècle de la vitesse, de la connaissance de pratiquement toute chose, on a des gens sur une station spatiale, que ça fait peut-être 4, 5, 6 ans qu'ils sont là, puis qu'ils vont là pour 6 mois ou plus. Ils vivent pratiquement là. Alors, on est à une ère spatiale, une ère de toutes les découvertes, de tous les aspects scientifiques au niveau des médicaments, au niveau de toutes choses. Mais comment quelque chose de si vieux peut être d'actualité en 2015? Cela semble un peu comme un baiser de la mort, plutôt. Eh bien, non. Si c'est une confession basée sur la Bible, et vous pouvez comprendre pourquoi elle est pertinente, si vous avez lu notre confession de foi, certainement que vous avez remarqué ceci, qui est très clair combien il y a de notifications bibliques dans notre confession de foi. Il y a en effet quelques 100 textes bibliques qui y sont référés pour supporter les 32 chapitres de notre confession. Ceux qui ont contribué ensemble à la confession connaissaient leur Bible. Ils la connaissaient pratiquement sur le bout de leurs doigts ou le bout de leurs lèvres. Et le fait est que c'est encore une référence pour nous aujourd'hui, soulignant qu'elle a tenu le coup, qu'elle a résisté à l'épreuve du test du temps. Nous pouvons réaliser que lorsque les gens entendent cela, une confession de quelques 300 ans d'âge, ils pourraient en quelque sorte froncer les sourcils, dire, se questionner, tu sais, être un peu suspicieux. L'Église de Christ a la réputation, à tout le moins, de l'opinion de quelques gens comme étant démodée et qu'elle ait besoin désespérément d'un changement. Les gens disent qu'il semble que tout cela est en fait que si l'Église doit survivre, nous devons être innovateurs et nous devons être à l'affût. Nous devons être à la mode, se mettre à la mode du temps dans lequel nous vivons. Les mots de C.S. Lewis sont très à propos. Il parle et nous avertit de ce qu'on appelle un snobisme chronologique, ce qui est un dédain moderne pour l'histoire et l'ignorance de l'histoire. Ainsi, au lieu d'être embarrassé avec quelque chose d'aussi vieux qu'est notre confession, nous devrions être profondément reconnaissants pour les hommes qui ont investi tellement de temps à travailler pour nous donner une si riche distillation de vérité dans une forme systématique. La théologie systématique a été appelée, à juste titre, la reine de toutes les sciences. Et nous devrions nous rappeler que ceux qui ont assemblé notre confession l'ont fait sous la conviction que l'Église est la base et le pilier de la vérité. Ils ont fait leur travail et ils nous ont donné quelque chose de beaucoup plus grand et précieux qu'aucune œuvre de Michel-Ange ou d'un Rembrandt ou de tout autre personnage de ce même type. Ainsi, nous allons prendre notre confession et allons mettre les voiles et allons tourner au chapitre 26. Vous ne l'avez pas entre les mains. C'est mon erreur, j'aurais dû peut-être le mentionner, mais de toute façon. Et vous allez remarquer que l'accent y est mis sur l'Église de Jésus-Christ. Le chapitre 26, c'est le chapitre le plus long de notre confession. Il y a 15 chapitres. 15 paragraphes, plutôt. C'est beaucoup plus long que celui de la confession de Westminster, qui n'a que 6 paragraphes. Ainsi, les baptistes ont doublé, en réalité plus que doublé, et la raison de cela est que les baptistes ont pris avantage de la déclaration de Savoie, qui elle-même a été influencée par les puritains, les congrégationnistes, des hommes comme John Owen et Thomas Goodwin. Alors que nous prenons un recul et regardons cela d'un peu plus haut, vous allez trouver, si vous vous rendez jusqu'au chapitre 26 dans notre confession, vous allez trouver un mot qui ressort encore et encore. Et c'est le mot « Christ » ou « le Seigneur Jésus ». Pratiquement chaque paragraphe dans ce chapitre a l'arôme de Jésus-Christ. Allons relever simplement quelques passages. Et vous allez sentir quelque chose du battement de cœur christologique qui ressort de ces quelques passages. Donc, au chapitre 26, si on prend le premier paragraphe, il nous est dit « L'Église catholique ou universelle, que l'on peut dire invisible, en raison de l'œuvre intérieure de l'Esprit de vérité et de grâce, comprend la totalité des élus, Ceux qui ont été sont ou seront rassemblés dans l'unité sous Christ, leur chef. Donc, la première mention de Christ ou du Seigneur Jésus dans le premier paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, tous ceux qui dans le monde entier professent la voie de l'Évangile et l'obéissance à Dieu par Christ qui y est conforme. Alors, paragraphe 2, deuxième mention. Paragraphe 3, les églises les plus pures ici-bas sont sujettes au mélange et à l'erreur. Et quelques-unes ont tant dégénéré qu'elles ne sont plus des églises du Christ. Alors, chapitre 3, mention de Christ encore. Chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église. Alors, dès les débuts du paragraphe 4, il nous mentionne Jésus-Christ, chef de l'Église. Et si vous poursuivez dans le reste des 11 chapitres, vous allez voir encore le nom de Christ ou le Seigneur Jésus, il ressort encore et encore. Il est à propos de dire que Jésus-Christ y est mentionné explicitement dans chacun de ces paragraphes, à l'exception d'un seul paragraphe, le chapitre 11, je crois, où le nom explicitement de Christ ou du Seigneur Jésus n'est pas mentionné, mais il y a le terme par le Saint-Esprit qui est mentionné. Donc, tout cela nous rappelle que lorsque nous pensons à l'Église, nous devons penser à Christ. Il y a une relation inséparable entre Christ et son Église. C'est la chose la plus importante que nous pouvons dire concernant l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église de Christ, elle lui appartient. Et dans ce passage de l'Écriture que nous avons lu dans Matthieu 16, 18, Jésus identifie ici l'Église comme lui appartenant. Il utilise le pronom personnel « mon Église ». Et c'est toujours inconfortable lorsque quelqu'un dit que c'est l'Église d'un tel ou d'un tel, ou c'est l'Église de tel pasteur, comme nous avons déjà entendu. Nous avons cependant à répondre, « Eh bien non, ce n'est pas cela, c'est l'Église de Christ. » Celui qui est en fonction n'est simplement qu'un serviteur dans l'Église. C'est l'Église de Christ, c'est son Église. Bien que nous savions ce que les gens veulent dire, cependant, nous nous devons de souligner que c'est l'Église de Christ qu'elle lui appartient. Quelqu'un a dit, « Si vous ouvriez et pénétriez dans le cœur de Christ, vous verriez inscrit sur son cœur le mot « Église ». Le mot grec pour « Église », c'est le mot « Ecclesia ». L'Église est expressément dans le cœur et la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas trop peu dire, n'est-ce pas, que chaque jour, la pensée de Christ est pour son Église. Chaque jour, il prie pour son Église. Chaque jour, il intercède pour son Église. Il guide et prend soin de son Église. Et c'est simple de comprendre pourquoi. C'est parce qu'il aime son Église. Ainsi, alors que nous abordons cette doctrine, qui est quelquefois appelée la doctrine de l'ecclésiologie, ecclésiologie, c'est la doctrine, une des doctrines de la parole qu'on retrouve dans la parole, la doctrine de l'Église, qui vient du mot « ecclésia », le mot grec « ecclésia », nous devons comprendre ceci. Peut-être la chose la plus importante, Jésus aime son Église. Et nous allons regarder pourquoi, en trois raisons, pourquoi nous pouvons être certains que Jésus aime son Église. Premièrement, par l'image de l'Église. Deuxièmement, par les promesses données par Jésus à son Église. Et troisièmement, par le rachat de son Église. Premièrement, par l'image de l'Église. Une des premières choses que notre confession de foi nous dit concernant l'Église au paragraphe 1, c'est que Jésus aime l'Église. Après nous avoir mentionné l'Église catholique ou universelle, qui comprend la totalité des élus rassemblés dans l'unité sous Christ, leur chef, on peut noter le début de la prochaine phrase écrite par ceux qui ont écrit la confession, le mot « épouse ». C'est un mot imagé, c'est une image de mariage, c'est une image d'un mari et de sa femme. Si nous y pensons, existe-t-il une relation sur la terre qui devrait être plus spéciale, plus intime qu'une relation de mariage? Peut-être savez-vous ceci, les puritains étaient derrière la confession de Westminster, qui est la confession presbytériens, des pédobaptistes, et ils sont aussi derrière notre confession de foi, la 1689. Les puritains célébraient le mariage chrétien. Le docteur J.I. Parker cite, « Il soutient que les puritains étaient les créateurs du sabbat anglais ou du dimanche chrétien anglais et les créateurs du mariage chrétien anglais. » Non pas les créateurs dans le sens, c'est eux autres qui l'ont inventé, mais ils ont fait la promotion intense du mariage chrétien anglais et du sabbat anglais, comme ils le mentionnent. Voici ce qu'ils disent au sujet du mariage concernant l'homme qui est le mari. Et je cite, « L'homme dont le cœur est en amour avec la femme qu'il aime, rêve d'elle dans la nuit, il l'a dans l'œil, il est dans l'inquiétude quand il l'attend, il pense à elle lorsqu'il est assis à la table. » Elle vit dans le battement de son cœur, il lui fait confiance et son affection pour elle est comme un courant puissant qui coule au plus fort de sa force. Ce sont les puritains parlant d'un homme concernant l'amour qu'il a pour sa femme. Ainsi, lorsqu'ils ont mis ce mot « épouse » dans la confession de foi 1689, ils ne l'ont pas utilisé ou ne l'ont pas mis avec insouciance, négligemment, simplement pour mettre un mot. Ils l'ont vraiment pesé. Ils pensaient à cette relation merveilleuse, intime, et ils parlaient indirectement de leur propre femme, de ce qu'ils vivaient eux autres. Ils vivaient la parole de Dieu et ils vivaient cela avec leur propre femme. Et qu'est-ce qui a fait qu'il l'ait mis ici? Ce n'était pas seulement leur propre expérience, mais ils étaient dirigés par la parole de Dieu. Ils vivaient la parole de Dieu. La parole de Dieu faisait partie de leur vie. Et si vous avez lu des puritains comme Thomas Watson, tous ces puritains, qu'il y en a des centaines, et lorsque vous lisez la biographie d'un puritain, vous voyez qu'ils connaissaient leur parole. Et il la vivait. Il ne faisait pas simplement la connaître de façon intelligente, mais il la vivait. Elle était démontrée dans leurs actions. Vous allez trouver que ce graphique de mariage ou cette analogie de l'épouse court dans toute notre Bible. Nous la trouvons dans l'Ancien Testament, par exemple dans Ézéchiel 16, où la relation de l'Éternel avec son peuple est décrite en termes d'une alliance de mariage. Et plusieurs fois dans le livre d'Ésaïe, vous avez cette analogie qui est mise de l'avant dans Ésaïe 62. Je vais aller le chercher parce que j'ai oublié de le noter dans mon texte. Et Ésaïe 62, 5, il nous est dit, « Comme un jeune homme devient l'époux d'une vierge, ainsi tes fils deviendront pour toi comme des époux, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Et comme la plupart des doctrines dans notre Bible, lorsque nous les trouvons dans l'Ancien Testament, elles sont aussi souvent trouvées sous forme visuelle, et lorsque nous trouvons dans le Nouveau Testament, elles viennent comme si elles étaient des fleurs épanouies, comme si elles avaient, comme si la fleur était ouverte. C'est pourquoi, lorsque vous trouvez ce graphique, cette analogie de Dieu en relation avec son peuple, venant en pleine fleur, en plein épanouissement, c'est de la façon dont nous le trouvons dans le Nouveau Testament. Et devinez qui, la première personne, en parle dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est Jésus. Jésus s'est lui-même placé sous cette analogie de la fiancée. Vous le voyez dans Luc 5, 34. Là où cette analogie est fortement illustrée dans notre Bible, est trouvée aussi dans Éphésiens 5, où Paul exhorte les maris ici. Il nous montre que l'Évangile sert à quelque chose comme un manuel pour les maris et les femmes. Et voyons ce qu'il nous dit dans Éphésiens 5, 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc voici le modèle de la mesure de l'amour de l'homme pour sa femme. Comme quelqu'un a dit, c'est un amour croisé. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il y a bien des gens qui prennent ça à la légère. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. La marche est extrêmement haute et les souliers dans lesquels nous embarquons, je ne suis pas certain qu'ils sont de la bonne grandeur. Parce que des fois, on ne fit pas dedans. Chaque chrétien devrait être un vrai reflet de l'histoire d'amour de l'Évangile. Et c'est clair ici, n'est-ce pas, à partir d'Éphésiens 5, que l'Église est l'épouse ou la fiancée de Christ. Vous trouvez ce langage de fiancée utilisé encore dans le dernier livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse, dans Apocalypse 21, 2, et je cite, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Pour comprendre la relation de Jésus avec son Église, vous devez comprendre ce magnifique graphique d'une épouse, d'une fiancée. Oui, Jésus aime son Église. Et comment le savons-nous? Eh bien, nous avons cette image du mariage. Elle est réellement, comme quelqu'un l'a présenté, c'est le seul mariage qui a été célébré au ciel. Et c'est un mariage éternel. Votre mariage, pour ceux qui sont mariés, ne durera pas éternellement, n'est-ce pas? Et au ciel, il n'y aura pas de mariage. Mais il y a un mariage éternel. C'est celui de Christ et de son Église. Pourquoi pouvons-nous dire que Christ a aimé son Église? Premièrement, en raison de l'image de l'Église, comme nous venons de voir. Ce qui nous amène à notre deuxième raison, par sa protection ou les promesses de prendre soin de son Église. Retournons dans Matthieu 16, où nous avons cet énoncé prophétique par notre Seigneur en termes de la chronologie ou de l'encadrement du temps. C'est un point crucial dans le ministère de Jésus. Jésus est sur le point de tourner sa tête vers Jérusalem, c'est-à-dire qu'il s'en va à Jérusalem pour la dernière fois. Il va mourir par la crucifixion et il pense à son Église. Matthieu 16, 18, en réponse à la confession de foi de Pierre, Jésus dit à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, avec un grand P, le nom de Pierre. » Ici, Pierre est le représentant des 12 apôtres. La confession de Pierre qu'il vient juste de dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus maintenant dit à Pierre que sur cette pierre, petit p, la pierre de ta confession, sur la pierre de ta confession, la pierre de la vérité concernant qui je suis et ce que je ferai ma personne, en ma personne et en mon œuvre, Il poursuit, « Je bâtirai mon Église. » Et ensuite, notez ce qu'il dit, « Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » C'est la première fois que le mot « Église » nommément le mot « Église » fait surface dans la Bible. Il vient de la bouche de Jésus. Et c'est le terme grec qui est reflété là. C'est le terme grec, comme on a vu, « ecclésia », qui veut dire « Église ». Et dès que Jésus mentionne l'Église, il leur dit premièrement, « C'est mon Église, je la possède, elle m'appartient. » Et mais ensuite, pouvons-nous dire, il lui donne en quelque sorte une bonne dose de réalisme. Il lui dit qu'il y aura de l'opposition. Il envisage cela. Il ne la regarde pas, il ne la voit pas, il ne la regarde pas sans penser aux problèmes qu'elle devra faire face ou qu'elle doit faire face. Il mentionne les portes de l'enfer, ce qui fait référence aux portes d'une cité où des stratégies et des plans de bataille qui est souvent soulevé lorsque les gens allaient à la guerre. Lorsqu'ils arrivaient à une cité, une forteresse, et c'est la référence à cela, il y avait tout le temps des plans qui étaient des stratégies pour comment entrer dans la cité. Et c'est intéressant ici qu'à ce point-ci, dans le ministère de Christ, après cela, de toute manière, il en vient à avoir des attaques féroces. C'est tout comme si cet énoncé qu'il vient de dire lui apporte des troubles avec le diable lui-même. Et on le verra dans la suite, on le voit dans la suite des temps, dans le ministère de Jésus, que immédiatement après, Jésus bientôt ira dans le jardin de Gethsémané avec des sueurs comme des grumeaux de sang. Et ensuite, il sera mis sur le bois de la croix, il sera crucifié. Mais cela ne regarde pas comme s'il va protéger l'Église. Cela regarde plutôt comme quelqu'un qui ne peut prendre soin de lui-même. Mais il ne faut pas oublier ceci, c'est que Jésus, dans cette phase-là, était dans un état d'humiliation. Et ce ne sera pas avant que Jésus ait conquis la tombe, qu'il soit monté au ciel, assis à la droite de Dieu, que nous commençons réellement à voir le programme de construction de l'Église. C'est au jour de la Pentecôte, pouvons-nous dire, que l'engrenage a été mis en marche. 3000 âmes sont sauvées et ajouté à l'Église qui nous est dit dans acte 2. Ici, dans Matthieu 16, c'est un peu comme une chimère, si on peut dire. Mais pouvons-nous dire réellement, vous regardez à ces 12 disciples, tu vas réellement bâtir l'Église? Une anecdote, une histoire, c'est mythologique et qui va comme suit. Lorsque Jésus arrive au ciel, un des anges lui demande « Quelle est ta stratégie pour bâtir l'Église? » Et Jésus pointe vers les 12 disciples, les 12 apôtres, et dit « C'est ma stratégie. » L'ange dit « Quelle est ta deuxième stratégie? Quel est ton plan B si jamais ce plan A ne marche pas? » Et Jésus de dire, « Je n'ai pas de deuxième stratégie. Ceci est ma stratégie. » Est-ce que Jésus a gardé sa parole? Il y a plus de 300 000 églises en Amérique seulement. Et c'est tout un programme de construction. Pensez à toutes les églises à travers le monde. Sans aucun doute, n'est-ce pas, le charpentier a été occupé à construire ces églises depuis quelques 2000 ans. Toutes ces grandes civilisations comme les Égyptiens, les Grecs, les Romains, ils sont réduits en poussière. Où sont les pharaons, les Césars? Où sont les royaumes de ces siècles? Ils n'existent plus. Mais Jésus est toujours là, bâtissant son Église. Il bâtit son Église et il protège son Église. Il nous a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et pour saisir quelque chose de la haute qualité des soins et de la protection de son Église, nous tournerons dans Éphésiens 5. L'apôtre nous montre encore comment l'Évangile a une forte répercussion ou devrait en avoir sur nos mariages, en disant aux maris comment aimer leur femme et les aider à comprendre de ce que cela impliquerait. Il utilise ici une illustration, il leur donne une leçon d'objet en quelque sorte. Il dit aux maris de penser à leur propre corps. Et comment prenez-vous soin de votre corps? Eh bien, vous en prenez un soin attentif, un soin de haute qualité. Au verset 28, nous lisons dans Éphésiens 5. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et au verset 29 de poursuivre, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Et remarquez la dernière partie de la phrase, comme Christ le fait pour l'Église. Est-ce que vous prenez soin de votre propre corps? Jésus prend soin de son Église. Pensez comment il a pris soin de ses disciples au tout début de l'Église. Il en a pris soin émotionnellement, n'est-ce pas? Il y eut un temps où ils étaient très apeurés. Et tellement de fois, il eut à les réconforter et même à leur dire, « N'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte. » Il prenait soin de cette Église, pouvons-nous dire. Il a protégé ses disciples de leurs ennemis, de ses pharisiens, de ses scribes, de ses sadducéens, de ses hérodiens. Pensez à toutes les fausses doctrines et tous les faux enseignements qui venaient de ceux-ci. Ils auraient pu les séduire. Il les a protégés en leur donnant une dose concentrée d'instruction et d'enseignement. Il leur a envoyé son esprit pour les conduire dans toute la vérité. Il les a même protégés physiquement, n'est-ce pas, sur la mer de Galilée. Vous vous rappellerez lorsqu'il a apaisé la tempête. Et ensuite, vous vous rappellerez dans le jardin de Gethsémané, lorsque cette foule est arrivée avec des bâtons et des épées, et ils ont demandé « Où est Jésus de Nazareth? » Et Jésus a dit « Je suis ici. » Et il leur dit « Par conséquent, si vous me cherchez, laissez-les aller, ceux-ci. » Il prenait soin de son Église. Et quelquefois, pour les protéger, il a dû les protéger d'eux-mêmes, de leur orgueil. Ils se disputaient entre eux. Qui est le plus grand? Il a dû leur enseigner concernant l'humilité, concernant le service. Il a protégé l'Église des fausses doctrines. Il nous protège de nos propres péchés, de l'orgueil et d'autres péchés qui peuvent si facilement nous conduire à l'égarement. Il nous protège du diable aussi, n'est-ce pas? Pensez à Pierre dans Luc 22. C'est l'exemple classique où Jésus dit à Pierre, « Le diable en a après toi, mon ami. » Le verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » C'est tout comme si le diable avait ciblé Pierre. Le diable avait pris Pierre dans sa mire et ses flèches se dirigent vers la cible. Et il l'a frappé. Il a renié son Seigneur trois fois. Nous pourrions dire que Pierre saigne abondamment. Il tombe. Mais Pierre ne meurt pas, n'est-ce pas? Pierre ne s'en va pas, comme Judas. Non, Pierre est revenu. Il est devenu le grand prêcheur de l'Évangile. Comment est-ce arrivé? Eh bien, Jésus leur dit pourquoi. Il dit, « Pierre, j'ai prié pour toi. » Voilà pourquoi. Jésus protège Pierre. Il nous protège nous-mêmes par ses prières, par ses intercessions. Vous le voyez dans Apocalypse 1, chapitre 1 à 3, où Jésus est dépeint et décrit comme marchant, comme un agneau, l'agneau immolé. C'est une image de sa relation avec l'Église. Jésus est entendu ici aux sept églises. Il en fait l'éloge et les avertit aussi. Il parle à l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2, 1. Puis ensuite, il parle à l'église de Smyrne au verset 8 et au chapitre et au verset 5, aux autres églises, aux autres cinq églises identifiées. Ce qui est tellement clair lorsque vous lisez les débuts de ces chapitres est que Jésus prend soin de son Église. Il les avertit, il les prend en considération. Il cherche à la protéger des ennemis de l'extérieur, mais aussi des ennemis de l'intérieur. Et quelques-unes des réprimandes sont sévères. Il dit à une des Églises, « J'ai quelque chose contre toi » dans Apocalypse 3, 19. Cela pourrait être un bon texte, passage à se rappeler lorsque nous pensons à Christ faisant des remontrances à son Église. Et pourquoi, à l'occasion, il semble plaider avec nous traiter avec nous de façon sévère. Il nous dit pourquoi, il nous donne la réponse. Il châtie ceux qu'il aime. C'est pourquoi il aime son Église. Comment savons-nous qu'il aime son Église? Comment pouvons-nous être sûrs qu'il aime son Église? Eh bien, par l'image de l'Église. L'Église est l'épouse de Christ. Mais nous savons aussi qu'il aime son Église en raison de la promesse de protéger son Église. Et troisièmement, ce qui nous amène à notre troisième raison, pourquoi nous pouvons être sûrs qu'il aime son Église? Par le rachat de son Église. Lorsque nous pensons à l'amour de Jésus pour son Église, nous pouvons aller dans différentes directions. Nous pouvons aller dans l'éternité passée et dire qu'il nous a aimés avant même que nous existions, avant la fondation du monde. Nous étions dans sa pensée. Et c'est ce que Éphésiens 1 nous dit, nous parle de son amour avant la fondation du monde. L'amour électif de Dieu, l'amour qui parle de l'élection. Et Jésus utilise ce langage qui est en rapport avec cela dans la chambre haute, lorsqu'il dit à ses disciples, « Vous ne m'avez pas choisi. Ce n'est pas vous autres qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. » Il semble que l'idée soit qu'il ne les a pas seulement choisis en tant qu'apôtres et amis, mais il y a même cet élément d'élection dans ce terme qu'il dit. Ce qui est mis l'emphase ici est que la Bible amplifie plus que toute autre chose lorsqu'elle vient à l'amour de Jésus-Christ. C'est son amour sacrificiel. C'est ce qui ressort encore et encore, même dans la chambre haute. Il leur dit qu'il n'y a pas de plus grand amour pour un homme que de donner sa vie pour ses amis. Pensez-y bien, 2000 ans plus tard, nous nous émerveillons encore de l'amour de Jésus. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le plus grand don. Le plus grand abandon, la plus grande sorte d'amour qui n'ait jamais été témoigné par quiconque. Il a abandonné le ciel, il a même abandonné sa relation avec Dieu. Il devait être abandonné par Dieu, Il devait souffrir la colère de Dieu. Il devait y avoir la rupture éternelle entre Dieu et le Fils et Dieu le Père. Les Écritures nous rappellent encore et encore, peut-être parce que c'est tellement difficile pour nous d'essayer de saisir et de comprendre. Faut se rappeler qu'on a notre esprit est on appelle ça un esprit fini, limité. Paul parle que cela dépasse la connaissance, l'amour de Christ. Et nous le voyons dans Jean 3,16. Je vais prendre le temps de les lire parce que c'est important. Jean 3,16, il nous est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous avons ce passage dans Galates 2, 20. La dernière partie du verset 20. On va tout le lire de toute façon. Paul dit, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Nous avons Éphésiens 5, chapitre 5, verset 2. Il nous est dit, « Et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » Dernier passage, Éphésiens 5, 25. « Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Pourquoi doit-on tant se le faire rappeler? Peut-être parce que c'est tellement difficile à croire qu'il a aimé l'Église. Le mot « ecclésia » en grec, qui veut dire « Église », littéralement veut dire « les appeler hors d'eux ». Le mot « Église »,« ecclésia » veut dire ça, « les appeler hors d'eux ». Dr. Sinclair Ferguson dit, « Cela nous ramène en arrière dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a appelé son peuple hors d'Égypte. » On retrouve cette même connotation, le mot « ecclésia » fait référence à cela. Lorsque le Seigneur a appelé son peuple hors d'Égypte, et le mot « ecclésia » veut dire « les appeler hors d'eux ». Il les a appelés hors de cet endroit d'esclavage. Et lorsqu'il nous a appelés, il nous a appelés des ténèbres. Il nous a appelés hors de l'esclavage du péché et du diable. L'Église sont les appelés de Dieu. L'Église, parce que c'est, on parle d'Église comme une entité qui comprend tous ceux que Dieu a élus de toute éternité. Donc, l'Église sont, au pluriel, les appelés de Dieu. Nous sommes ceux qui avons été appelés hors des ténèbres et transférés dans la lumière merveilleuse de Christ. Il nous a sauvés en allant à la croix. Il a racheté l'Église en mourant, en souffrant et en endurant la croix. Jésus aime l'Église. Les évidences sont renversantes. L'image de l'Église devrait nous convaincre. La protection de l'Église devrait nous convaincre. Le rachat de l'Église devrait nous convaincre. Quatre applications, si on pouvait dire, ou implications, pour conclure. Jésus aime l'Église. Si lui le fait, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de nous? C'est difficile à comprendre comment les gens pensent, comment les gens réfléchissent lorsqu'ils mentionnent. Et on entend cela aussi. J'aime Jésus. Je veux Jésus dans ma vie. Je veux suivre Jésus. Mais je ne veux pas son Église. Peut-être avez-vous déjà entendu ça. Moi, je l'ai déjà entendu. Oui à Jésus, mais non à l'Église. Probablement dans l'histoire de l'Amérique, il n'y a pas eu tant de gens qui se confessent comme étant chrétiens et qui ont tourné le dos à l'Église. Ils sont sortis, ils ne sont jamais revenus. On en parle à des gens, oui, je crois en Dieu, oui, Jésus, oui, tout ça. Mais est-ce que vous allez à l'Église? Ah non, alors l'Église, c'est pas pour moi, non. L'Église, moi, je fais ça tout seul chez nous, puis c'est... Alors, l'Église, ça ne fait pas partie de leur vie. Une question que l'on peut se poser, est-ce que Jésus n'a jamais fait cela? Est-ce que Jésus est déjà sorti de son Église? Est-ce qu'il nous a déjà encouragés à sortir de son Église? Non. Il commande le contraire. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez l'Église comme j'ai aimé l'Église. Si nous aimons Jésus, nous allons aimer l'Église. Si vous croissez dans votre amour pour Jésus, vous croîtrez dans votre amour pour l'Église. Le plus nous serons comme Jésus, et la parole nous enjoint à marcher dans les traces de Jésus, à lui ressembler de plus en plus, en principe, dans notre marche chrétienne, depuis que nous sommes chrétiens, on devrait être un peu plus avancé dans notre imitation de Jésus. Alors, le plus nous serons comme Jésus, le plus nous aimerons l'Église. C'est ici sûrement un motif, un encouragement d'aimer l'Église, parce que Jésus a aimé l'Église. Deuxième point, si nous aimons l'Église comme Jésus a aimé l'Église, eh bien, nous devons être soucieux comment nous parlons à propos de l'Église ou concernant l'Église. Est-ce que l'Église est parfaite? Non. Pourquoi l'Église n'est pas parfaite? Parce que nous sommes des pécheurs. Dieu rassemble des pécheurs dans son Église. Nous ne sommes pas parfaits, loin de là. L'Église est le visage du pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Donc, l'Église, en quelque sorte, c'est l'image du pécheur. Est-ce que l'Église fait des erreurs? Certainement qu'elle en fait. Est-ce que l'Église doit s'améliorer ou devenir plus sanctifiée? Oui, certainement qu'elle le doit. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de nous? Il y a une sanctification corporative, ensemble, aussi bien qu'une sanctification individuel, chacun pour soi, dans notre relation avec le Seigneur, on est appelé à se sanctifier. De même, corporativement, on est appelé à se sanctifier. Est-ce que l'Église a fait des erreurs, a failli à quelques égards? Oui, nous pouvons le dire à chaque période de l'histoire. Et on est justement dans l'histoire de l'Église, et on est à même de le constater. Ceux qui étaient là, vous voyez que l'Église a fait des erreurs et les ouvriers d'église qui étaient en poste, que Dieu a appelés, ont fait des erreurs, malheureusement. Nous devons être honnêtes concernant les manques de l'Église, ses erreurs, ses trébuchements. Quelquefois, l'Église a fait ou a soutenu des choses terribles. Ainsi, nous avons besoin d'avoir une évaluation ouverte, honnête et réaliste sur l'Église. Mais de là à dire que l'Église est non pertinente, hors de propos, une perte de temps, je ne veux rien avoir avec l'Église. Où est-ce que vous trouvez cela dans votre Bible? Il n'y a rien de tel dans la Bible. Jésus a des choses sévères à dire à l'Église. On le voit dans l'Apocalypse. Il savait qu'elle n'était pas parfaite, mais il a marché pour son Église. Il était l'agneau immolé. Il ne s'est pas éloigné. Il ne s'est pas poussé. si quelqu'un venait et vous disait, « Je veux te dire quelque chose concernant ta femme. » Et durant les quelques heures qui suivent, il vous dit des choses mauvaises, négatives qu'il pense à propos de votre femme. Qu'est-ce que vous feriez? On peut espérer que vous seriez quelque peu bouleversé. Pourquoi? Parce que vous aimez votre femme. Et il y a quelque chose dans l'amour du mari qui est protectif. Je ne sais pas si ça se dit protectif. Protecteur, oui, c'est ça. Là, c'est peut-être tiré un peu par les cheveux, peut-être. Donc, on enlève le mot « if », la finale « if » et on met « eur ». Tu peux dire des choses négatives me concernant, mais s'il te plaît, ne dis rien de négatif de ma femme. Nous devons être attentifs afin de ne pas développer ce que nous pouvons appeler une attitude hypersensorielle concernant l'Église de Christ. Si nous prenions un inventaire de nos paroles et de nos pensées de l'Église de Christ depuis la dernière année, qu'est-ce que cela donnerait? Serait-il pour la plupart positif ou négatif? Rappelons-nous que de l'abondance du cœur, la bouche parle. J'espère que les gens qui vous connaissent pourraient dire, je réalise, d'après ce que tu dis, l'Église n'est pas parfaite. Et il y a des problèmes dans cette Église, comme dans chaque Église. Mais il est clair, pour moi, que tu aimes l'Église. Il me semble que si nous aimions l'Église, nous serions protecteurs de l'Église et de parler en bien de l'Église. Troisième point, si nous comprenons la relation de Jésus pour l'Église et combien il a aimé l'Église, voici une bonne façon de diagnostiquer votre santé spirituelle. Est-ce que vous aimez l'Église? Lorsque vous pensez à l'Église, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ordinairement? Quels sentiments, quelles pensées avez-vous qui vous viennent à l'esprit? De l'ennui, du désillusionnement, des plaintes, du commérage, du mécontentement, de la désaffection, ou y a-t-il du plaisir, des délices, de la joie, de la gaieté de cœur? Dans un livre intitulé « 10 questions pour diagnostiquer votre santé spirituelle », le docteur Don Whitney pose cette question. Et pose des questions. Et une de ces questions est « Est-ce que vous prenez plaisir dans l'épouse, dans la fiancée de Christ? » Lorsque le dimanche arrive, êtes-vous excité? Est-ce un « Oh non » ou est-ce un « Oh oui » « Oh non, est-ce que je dois y aller à l'Église ?» ou « Oh oui, je veux y aller » Êtes-vous content? Êtes-vous dans la joie d'être ici? Ou y a-t-il un autre endroit que vous aimeriez être? Et il y a plein d'autres endroits qu'on pourrait mettre en parenthèse, là. Il y en a plein, là. Le psalmiste de dire dans le psaume 122:1, c'est le cantique des degrés de David, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Je pense qu'on devrait se l'écrire comme des phylactères, comme les Juifs faisaient, les pharisiens ici en avant. Dans une version, je pense, c'est dit « Mon cœur est dans la joie lorsqu'on me dit « Je vais à la maison de l'Éternel. » Mon cœur est dans la joie. La joie est dans le cœur. Et pas la joie, et pas dans les circonstances, dans les choses, dans tout ce qu'on pourrait faire, dans tout ce qu'on va manquer. J'espère que vous prenez plaisir en Dieu comme le prophète Ésaïe nous le dit de prendre plaisir en Dieu dans le jour du Seigneur, dans le sabbat. De prendre plaisir dans la loi de l'Éternel, comme il nous est dit au psaume 1. Si vous êtes un croyant, vous ne vous réjouissez pas seulement en Dieu. Prenez plaisir à sa parole, mais aussi vous vous réjouissez dans son peuple qui est son Église. Le psaume 16, verset 3, nous est dit « Les saints qui sont dans le pays, eux-mêmes et les puissants sont l'objet de toute mon affection. » Si nous pourrions mettre une carte, sur une carte, votre pèlerinage spirituel, j'espère que ceci serait la vérité vous concernant, un amour et un plaisir croissant pour l'Église. Êtes-vous plus proche, plus intime du peuple de Dieu ou vous retirez-vous du peuple de Dieu? Si vous trouvez votre cœur et votre désir pour être avec, si vous trouvez votre cœur et votre désir pour être avec le peuple de Dieu, prenant plaisir au peuple de Dieu, c'est un bon signe que votre âme est dans un état de santé spirituelle. Et finalement, le quatrième point, brièvement, le fait que Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle devrait être une source constante d'émerveillement. Pensez aux anges qui n'ont pas reçu le salut et qui, dans l'épître, je pense que c'est dans l'épître de Pierre ou Hébreu, là, je ne me souviens pas de c'est là, quelque part, que les anges désirent plonger leur regard dans l'œuvre que Dieu accomplit dans l'Église. Alors, les anges, on a vu, comme Marcel nous avait dit, il y en a, c'est des myriades de myriades. Ça, c'est des centaines de millions d'anges qu'il y a dans le ciel autour du trône de Dieu. Et lorsque le peuple de Dieu est rassemblé pour le culte, ils plongent leur regard dans l'œuvre que Dieu fait dans l'Église. Alors, il y a des millions, des centaines de millions d'anges qui regardent nos attitudes, nos comportements. Donc, devrait être une source constante d'émerveillement, comme les anges ont cette constante source d'émerveillement, d'admiration et de respect. Il n'y a rien de plus étonnant, renversant, que son amour pour l'Église. Nous sommes l'Église, l'épouse, la fiancée de Christ. Il nous a aimés d'un amour éternel, un amour inaltérable. Il ne changera jamais son amour. Immuable. L'amour le plus prodigieux, merveilleux, imaginable. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour que Jésus a pour nous. Rappelez-vous de cela. On était des pécheurs rebelles. On ne voulait rien savoir. Non seulement on ne voulait rien savoir, mais on faisait tout. Moi, je me rappelle où ce que j'étais. C'était pas chaud chaud. On se moquait des. J'avais un ami croyant. Puis on se moquait de lui, puis on disait toutes sortes de niaiseries. On était effrontés. Et ça n'a pas changé. Le monde n'a pas changé. On n'était pas aimable. C'est exactement le mot. On n'était pas aimable. On était rebelles. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour que Jésus a pour nous. Pouvons-nous le croire? Il y a des fois que nous ne le pouvons pas. Nous devons nous tenir en face du miroir et nous demander « Comment se fait-il qu'il ait pu m'aimer, moi? » Mais c'est étonnamment et merveilleusement vrai, Jésus a aimé l'Église. Il a aimé l'Église depuis l'éternité et il va l'aimer pour toute l'éternité. Il l'a toujours fait et il le fera toujours, aimer son Église. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et tout ce que tu continues de faire pour nous, pour ton épouse, pour ta fiancée, pour ton Église, Seigneur. Cette Église, Seigneur, pour laquelle tu as donné ta vie. Seigneur, il n'y a pas de mot que nous connaissions qui serait assez fort pour décrire le qualificatif que nous avons pour dire ce que nous ressentons, Seigneur, pour cela. Alors qu'on était perdus, Seigneur, dans nos péchés, voulant rien savoir, Seigneur, rien. Nous vivions pour nous-mêmes, pour nos passions, nos désirs, Seigneur, notre propre personne, nous étions égoïstes. Aimant la vie, Seigneur, pour ce qu'elle est, Seigneur, dans le sens matériel de ce que nous voyons avec nos yeux. Mais Seigneur, tu es venu nous chercher. Tu nous as aimés de toute éternité. Tu as donné ta vie pour moi, pour nous. Tu as versé ton sang, Seigneur, pour nous. Ton corps a été meurtri. Seigneur, tu as tout fait ça pour nous. On a de la misère avec notre esprit limité, fini, Seigneur, à saisir tout cela. Mais c'est par la foi, Seigneur, que nous devons le comprendre et le saisir. Par la foi, Seigneur, nous acceptons cela. Seigneur, nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu as fait pour nous. Que cela a une portée éternelle de gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.